RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Football Show. Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois, mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot. Gilbert Brébois.
Et oui, jusqu'à minuit, l'after est là sur RMC, RMC Sport News. Daniel Riolo, Jérôme Rotten, messieurs, dames, attention, voilà le retour de la Ligue 1 avec le premier avis du soir, celui de Daniel. Jingle Riolo, c'est parti.
Putain, Daniel, t'es dégueulasse, Cogno.
Pour la première fois en 10 ans, je me suis vraiment rendu compte que je t'ai coupé la parole.
Non, ta gueule.
Ça m'était jamais arrivé avant.
Connard, ouais.
C'est un vieux jingle, mais il marche toujours.
C'est ça.
Là, il marche bien, ouais, de temps en temps de le remettre, c'est bien.
Ça m'a perturbé, c'est tellement vrai. J'ai entendu Fred Armel s'énerver, ça me rappelle des
avant Noël.
Un peu d'avant Noël.
Ouais, mais pourquoi tu as fait ça
surtout avant Noël.
Surtout avant Noël.
Non, mais il y a des périodes.
Avant Noël, Jérôme, c'est lamentable.
Je digérerai jamais.
Vous êtes vraiment des salopards.
Mais ben non, mais c'est la vérité.
Est-ce que ça marche s'il n'y a pas de fête? Si tu me fais une crasse mi-janvier, ça passe.
Ouais, mi-janvier.
On peut dire me faire ça mi-janvier. C'est dégueulasse.
Non, il faut que le tout, c'est que tu fasses pas. T'évites avant la chandeleur. Bah, mardi gras. Là, les fêtes qui nous attendent, importantes. Les crêpes, hein,
chandeleur. Ah, les crêpes, c'est
mardi gras, tu déconnes pas, tu me fais pas de crasse. Après, je crois, on va direct sur Pâques, hein.
Et à Saint-Valentin.
Ah, Saint-Valentin, ça peut compter aussi, ouais, ça peut compter. Voilà. Bon,
tu voulais parler du podium de la Ligue 1.
Oui, enfin, transition difficile après le foot amateur. Ouais, parce que bon, hier soir, on parlait de Saint-Etienne, et évidemment, ça va nous ramener à, comme tu dis, mes thèmes millénaires.
Ton meilleur rôle.
Ouais, voilà. On a un podium là qui effectivement est surprenant. Alors, évidemment, on n'est pas en train d'envisager que ces deux équipes-là vont se retrouver en Ligue des Champions, en l'occurrence Lille et Saint-Etienne. Évidemment, j'espère que les supporters vont bien comprendre que quand je tiens ce genre de discours, c'est pas que je souhaite absolument que Saint-Etienne ou Lille n'aillent pas en Ligue des Champions. S'ils le méritent sur le terrain, qu'ils y aillent. Et les supporters de ces deux clubs ont tout autant le droit de voir leur équipe en Ligue des Champions et donc débarquer des grosses équipes dans leur stade que Marseille ou Lyon. Il s'agit pas du tout de parler de ça. Mais d'un problème qui est malheureusement trop récurrent dans nos championnats, c'est le phénomène de la surprise. Imaginons que ça tienne. Ça tient non pas parce que ces équipes sont préparé à ça, même si ça veut aussi dire qu'elles ont bien travaillé, qu'elles ont des bons joueurs. Et hier, attention, peut-être que parfois j'ai pu sembler avoir un discours difficile sur méchant sur Saint-Etienne, mais dans le même temps, j'ai bien précisé les forces qu'ils avaient au milieu, derrière, devant, des bons joueurs. Mais on m'empêchera pas de penser que si jamais Lille et Saint-Etienne terminaient sur le podium, c'est parce que Lyon et surtout Marseille, vu la période traversée actuellement, serait en dérapage sur la saison et sur quelque chose pour le coup de totalement imprévu, à la limite d'ailleurs de la cata économique si les deux Olympiques n'y allaient pas. Mais dans le même temps, attention, et c'est là que je veux en venir, c'est que si Lille et Saint-Etienne y vont, ça peut être exactement le même problème à l'envers, paradoxalement, c'est que t'es pas préparé financièrement à ce genre de choses-là, et on sait très bien qu'il y a un tas de clubs dans le passé qui n'ont pas su gérer ces choses-là, et qui se sont plantés. En gros, t'as le plaisir de l'instant, de la qualif, de la participation, et tu le payes après pendant 2 ans au niveau de tes finances, parce que t'as mal géré, parce que t'as vendu les joueurs, parce que t'as pas réussi ton recrutement, parce que t'étais pas préparé, et que t'étais structurellement pas prêt à jouer cette Ligue des Champions, qui est une compétition valorisante où tu prends le chèque, ok, en décembre, voilà, t'es content, t'as fait ta phase de poule, t'as été chapeau 4, donc logiquement, tu t'en sors pas, et puis, t'as pas tellement le niveau en prime, quand t'y arrives, il faut dire la vérité. Cette Ligue des Champions, ça, c'est pas de ma faute à moi, mais elle est aujourd'hui, on l'a dit 1 milliard de fois, comme une sorte de ligue fermée. Et en gros, si t'as pas le bon ticket, c'est un peu comme si tu rentres dans une boîte de nuit où t'as pas le droit de rentrer, ou enfin où tu rentres par hasard. Après, t'as pas un rond pour te payer un verre, tu passes pour un con et tu finis dehors. Ou alors, tu te payes le verre, mais après, tu t'es ruiné parce qu'il coûtait trop cher pour toi.
Après, les clubs français ils vont pas déclarer forfait.
Non, mais sûr que non. C'est pas ça que je dis. Oui, mais parfois, le choc que ça peut occasionner dans ton club, c'est exactement comme le choc que subiraient les clubs qui doivent y aller et qui y vont pas. Ça peut faire mal. Le mec qui rentre pour faire le beau dans la boîte, alors qu'il a pas les moyens, il se paye 3 verres et la bouteille, et il termine le 15 du mois, il est à la rue.
Est-ce que tu es d'accord avec Daniel?
Écoute, ça, son avis va. Alors, décidément, c'est vrai qu'on enchaîne les choses, mais moi, j'avais parlé la semaine dernière, j'avais fait un avis tranché sur la mentalité du foot français, la mentalité des dirigeants qui doit changer, la mentalité des joueurs aussi dans les discours, parce que il y a discours. En l'occurrence, c'était Ben Arfa que je citais la semaine dernière, même s'il fallait pas s'arrêter que sur lui. Ça va dans cette logique-là, parce que en effet, si et tant mieux pour eux, s'ils l'auront mérité, si Lille et Saint-Etienne restent à cette position-là en fin de saison, et il n'y a pas de raison que ça change pour l'instant, parce que les équipes, les grosses équipes, on va dire, du championnat, Monaco, ils sont largués, donc ils reviendront jamais.
Monaco, ils reviendront pas.
Marseille, à 8 et 9 points, je vois pas, dans l'état où ils sont aujourd'hui, avec tous les manques qu'on dit, comment ils peuvent remonter et finir devant Saint-Etienne et Lille. Il y en a qu'une qui a les moyens de se remettre, c'est Lyon.
Oui, bien sûr.
De se remettre sur le truc. Lyon est armé. En effet, pour rivaliser en Ligue des Champions, la preuve, c'est que aujourd'hui, ils sont en huitième.
Ils sont dans les clous.
Ils sont dans les clous. Alors, c'est sûr que c'est difficile de voir un éventuel vainqueur de la Ligue des Champions, en l'occurrence, l'Olympique Lyonnais, mais au moins, ils ont les moyens pour rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Après, je sais pas où ça va s'arrêter. Mais quand tu connais la stratégie de Saint-Etienne, la stratégie de Lille, encore plus Lille, qui, premier à le dire, ils vont bénéficier, et je leur souhaite, d'une très bonne année cette année dans le championnat, peut-être une qualif en Ligue des Champions, pour vendre leurs meilleurs joueurs. Donc si tu vends les meilleurs joueurs à un prix d'or et que tu réinvestis sur des jeunes pour espérer que la Ligue des Champions les mette en lumière comme Monaco l'a fait, c'est problématique pour le foot français.
Les sous que Lille va aller prendre en Ligue des Champions, c'est pour rembourser.
Non mais exactement. Non mais exactement. Mais c'est problématique pour le foot français et on aura les mêmes
qui en souffriront.
On aura les mêmes réflexions l'année prochaine en disant qu'est-ce que vous voulez en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions encore plus.
Et
déjà
qu'on aura eu un suivi. C'est-à-dire que les finances des autres, ceux qui ont vocation à y être, elles vont s'arrêter, elles vont prendre un coup. Et voilà. Et malheureusement, alors, c'est pas de notre fait. C'est le football européen qui est devenu comme ça. Le système économique fait que.
Non, mais c'est ça revient à ce qu'on disait. C'est où sont les entraîneurs? Alors le foot a changé. Je suis d'accord. Maintenant, on essaye de se faire de l'argent. Je sais pas comment ils espèrent parce que on en parlait. C'est pas quand t'investis dans un club de foot qu'en général tu deviens très riche. Mais tous les, à part le Paris Saint-Germain, où c'est une stratégie différente. Lyon était différent, mais aujourd'hui, à travers le discours, on le disait, de Jean-Michel Aulas, on a l'impression que ça change un petit peu. Si les discours restent les mêmes, si l'objectif c'est en effet de mettre en valeur certains joueurs, les aider à se former au mieux, à se développer et puis après mieux les vendre pour enrichir le club, ah ben là ça va être problématique pour la suite. Donc oui, sinon c'est aujourd'hui, c'est pas une bonne nouvelle. Maintenant, peut-être qu'avec cette saison-là, on imagine, peut-être que les mentalités, je suis peut-être un doux rêveur, mais que la mentalité à Saint-Etienne et à Lille vont changer. Et que, d'un seul coup, ils vont vouloir étoffer leur effectif pour mieux rivaliser. Je pense pas. Non, mais donc je suis un doux rêveur, mais bon.
Dimanche soir, t'as Saint-Etienne-Lyon. Bon, Lyon, ils sont bons dans les gros matchs, normalement. Mais ici, Saint-Etienne a quand même une belle équipe. Si jamais ils les battent, il y a un écart qui va devenir.
Il prendrait une belle option,
ça.
Il y a un tournoi du championnat, là.
Il y aura 5 points.
Après, grosso modo, 20 matchs, Marseille n'avait disputé que 29.
19.
Pour 19, pour qu'ils reviennent. L'OM, c'est chaud. Tu sais quelle est
Marseille,
la moyenne de points?
Non, mais
tu sais quelle est la moyenne de points par match de l'OM cette année? 1,47.
Mais oui. Non, mais. Non, mais Daniel.
Et même Lyon. Lyon n'est pas à 2 points. Ils sont à 1,7 par match.
Ouais. Nicolas, c'est bonsoir.
Loin. C'est pas bon, moi.
Salut.
Salut, Nicolas. Toi, t'es supporter lyonnais. Qu'est-ce que tu penses de l'avis de Daniel là ce soir?
Bah, je pense que pour ce qui est d'analyser qui sera deuxième, je pense quand même que sur le long terme, Lyon doit être devant. Parce que Lille, quand ils casseront leur dynamique, ils risquent de moins bien s'en remettre. Et Lyon est en train de chercher cette dynamique. Je pense que quand ils auront 2 victoires de suite, j'espère que, enfin, je les attends. Hein. Mais quand Lyon aura gagné 2 matchs de suite, je pense qu'ils auront du mal à arrêter leur série habituelle qu'ils ont souvent en fin de saison. Donc
ouais, celle de la deuxième partie de saison, des 10 victoires de suite, des trucs
voilà,
comme ça.
Voilà, je pense qu'ils vont encore le refaire. Après, la troisième place, j'ai envie de dire, c'est presque plus anecdotique. Parce que si elle n'est pas qualificative directement en Ligue des Champions, il faut passer par des barrages.
Ouais,
bah,
le barrage
armé.
Le barrage est plus facile maintenant, hein, quand même.
Ouais, mais si c'est Marseille avec leur inconstance, ou si c'est Saint-Etienne qui débarque d'un seul coup, on n'a pas un effectif fait pour l'Europe du jour au lendemain, quoi. Même si on se qualifie pour le top 3, on n'a pas tout de suite le budget pour faire venir les joueurs qu'il faut ou pour augmenter les joueurs qu'il faut si jamais on a des joueurs clés. Alors que Lyon, ils ont tout préparé depuis longtemps pour avoir, on va dire, un effectif cohérent et assez large pour qu'on puisse jouer plus en compétition.
Logiquement, c'est ça. Oui.
Non, mais Lyon et Paris ne nous inquiètent pas. Bien sûr que c'est les deux valeurs fortes de notre football et que ils nous représentent en Ligue des Champions, ça me paraît déjà tout à fait logique par rapport au budget, mais surtout on est un peu plus sûr d'avoir des bonnes représentations. Le troisième, en effet, ça reste anecdotique parce que à l'arrivée, regarde Monaco était qualifié d'office cette année, troisième, ça fait deux années de suite qu'en Ligue des Champions c'est la cata, mais la cata, alors que si tu vois ce qui se passe dans le club avec les joueurs qu'il y a, il y a quand même des joueurs de qualité et pourtant ils sont passés à côté par rapport à leur projet qui est vraiment à la baisse aujourd'hui.
Non, mais ceux qui sont dangereux pour la Ligue 1, c'est Monaco, clairement. Mmh. Parce que eux, ils te qualifient une équipe en Ligue des Champions, mais l'année d'après, c'est plus la même équipe qui est sur le terrain. C'est carrément du vol. Donc eux, pour le coup, ils piquent une place européenne parce que eux, ils ont aucun projet à long terme, mis à part faire de la plus-value et rester, on va dire, dans le top niveau. Mais être deuxième de Ligue 1 et être demi-finaliste de Ligue des Champions pour l'année d'après, ne pas capitaliser là-dessus et finir presque relégable, je trouve ça... C'est assez incroyable.
Ouais, mais c'est après, je te dis, c'est la stratégie de quasiment tous les clubs aujourd'hui de Ligue 1. Bien, on a mis en avant le projet monégasque, mais bon, on peut parler du projet lillois, du projet stéphanois. Si Saint-Etienne finit en Ligue des Champions, je leur souhaite. Ils profiteront peut-être de ça pour vendre leurs meilleurs éléments. Un Caserie, est-ce qu'il va rester à Saint-Etienne si il continue à faire cette saison-là? Et parce qu'il y aura la Ligue des Champions, donc il restera à Saint-Etienne. Moi, j'en suis pas persuadé.
Non, ils profiteront. Pas sûr, en effet.
Mais c'est sûr.
Pépé à Lille,
pareil. Pareil, c'est la même chose.
C'est fait. Donc, on sait qu'en juin, il est plus là.
Il va être plus là. Caserie, moi, je te dis que s'il continue comme ça à Saint-Etienne, au mois de juin, il sera plus là non plus. Et que tu perdras les meilleurs éléments. Et que là, tu prendras un risque dans le recrutement. Non.
Il t'a bien régalé dans Team Duga, Wobby Caserie, tout à l'heure. Il a dit, ouais, tout ça, c'est grâce à Jérôme. Heureusement qu'il était là.
Excuse-moi, il a dit la vérité. Je l'ai pas forcé à dire ça. Je l'ai conseillé.
Nicolas, merci en tout cas. J'ai écouté, moi je me suis dit purée, mais en fait ce que dit Jérôme, c'est vrai.
Ben ouais. Tu sais, quand t'es un joueur international, t'es écouté. Hein.
Allez, on enchaîne, on remercie Nicolas au 32-16. Jérôme a aussi un avis ce soir, il veut parler, devinez de qui ? D'Adrien Rabiot, bien sûr, Jingle Rotten.
C'est la deuxième moins bonne meilleure attaque du championnat.
Ah là là. Bon ouais, non, je voulais parler d'Adrien Rabiot parce que
c'est la deuxième attaque du championnat aujourd'hui.
Hein ? De quoi ?
La deuxième attaque du championnat.
La deuxième attaque du championnat ?
Ouais.
Jérôme. Jérôme,
franchement, ça doit être Lyon.
Bah non. Je te laisse chercher. Bon, ton avis concerne Rabiot ?
Non. Attends, parce que
Si tu devais dans un écran, c'est plus facile.
Non, mais attends, je regarde. Donc j'ai bien raison, c'est Lyon.
À égalité avec qui ?
Non, 33 et Strasbourg 32 buts marqués.
Voilà. Ah zut, ah oui, c'est un but de Fekir d'hier.
J'ai encore raison. Non, mais je voulais parler d'Adrien Rabiot parce que là, d'un seul coup, retournement de situation, encore une fois.
Oui, donc alors les infos, c'est que Tourelle pense sérieusement à réintégrer Rabiot s'il n'y a pas de recrutement à ce poste-là. Voilà.
Alors là, franchement, je suis sur le cul. Sur le cul à plein de choses. Alors pas par rapport au fait qu'il réintègre Rabiot, parce que je trouve que par rapport à...
Quand on n'en est pas là, hein.
Non.
C'est Tourelle qui dit.
Non, mais même le fait.
C'est un moyen de pression. Quoi.
Fait d'y penser, même le fait d'en parler avec le directeur sportif, avec le président, avec les joueurs, je trouve ça incroyable. Il y a une décision prise il y a quelques semaines d'écarter définitivement, pour l'instant, Adrien Rabiot par rapport au fait qu'il n'est pas re-signé. On adhère pas. Moi, je trouve ça, et je l'avais dit, incroyable d'écarter un joueur, que tu le fasses plus jouer, que tu décides parce qu'il est pas bon et il s'est évincé tout seul. Hein. Thomas Tuchel lui a fait confiance au départ. Après, il l'a écarté. Il l'a pas écarté parce que Adrien Rabiot n'avait pas prolongé. Il l'a écarté parce que ses performances étaient pas bonnes et parce qu'il a trouvé un autre équilibre d'équipe et que cette équipe en Ligue des Champions a monté du caractère. Et quand elle a montré du caractère, il y avait pas Adrien Rabiot. Donc il s'est écarté comme ça. Après, il y a eu une décision d'en haut de dire écoute, tu écartes des définitivement Adrien Rabiot. C'est une connerie ou pas, au moins ils essayent de se faire respecter contrairement à ce qui s'est passé tous les épisodes depuis que les Qataris sont là, il y en a eu beaucoup, hein.
Ouais.
Le discours de certains joueurs, Ibrahimovic entre autres, où on n'a rien dit de spécial, hein, juste des fausses excuses. L'épisode Aurier, l'épisode Laurent Blanc quand je signe et je vire mon entraîneur après avoir re-signé et je lui fais un chèque de 22 millions d'euros, ça s'était jamais vu. Donc si tu veux, il y a plein de façons où ils se sont trompés dans le respect de l'institution, dans ce que c'était le Paris Saint-Germain, dans l'histoire du club, expliquer aux nouveaux joueurs et aux joueurs étrangers s'ils le savent pas ce que ce club a fait avant, qui est un club jeune mais au moins qui a gagné des titres avant et qui a eu des formidables époque aussi, tout ça, ça a été raté. Là, ils avaient l'occasion avec Adrien Rabiot, du moins, ils ont décidé de trancher en disant, voilà, il s'est foutu de nous, et ben on l'écarte. Ok, d'accord, mais fais pas machine arrière au bout d'un mois parce que t'arrives pas à recruter un milieu de terrain, parce que ça me paraît primordial, on le dit, d'avoir un effectif un peu plus étoffé dans le cœur du jeu, mais pas Adrien Rabiot, parce que si jamais Thomas Tuchel, comme il le dit, il réintègre, et c'est validé, il recrute pas, il réintègre Adrien Rabiot, il va te servir à quoi ? Tu vas passer pour un con déjà. Alors comme d'habitude, hein, je vais dire les dirigeants et le club.
Moi, je suis pas...
Je vais t'expliquer. Bah, Thomas Tuchel,
il va quelque part, si c'est le cas, faire passer les dirigeants pour des cons.
Ouais, mais lui aussi, parce qu'à l'arrivée, déjà, il fait plus partie de ses plans. D'accord. Il y a une équipe qui s'est dégagée en Ligue des Champions. Mmh. Son équipe type aujourd'hui, c'est sans Adrien Rabiot. On est d'accord. Ouais, donc, il va le réintégrer. Pourquoi faire ? Pour jouer la Coupe de France ? Il y a plus la Coupe de la Ligue. Donc franchement, je vais te dire. Mais pour être sur le banc, quoi. Mais il faut arrêter. Et le foot professionnel, le haut niveau, c'est pas la cour des miracles, Gilbert. Mais attends, je vais te dire.
Si Adrien Rabiot, ok. Verratti se blesse.
Non, mais laisse-moi finir. Mais tu mets Adrien Rabiot. Mais tu te fous du monde ou quoi? Mais non, tu mets pas Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, son dernier bon match avec le Paris Saint-Germain, c'est quand? Il faut remonter à l'année dernière.
Déjà. Je sais même pas. C'est compliqué d'en trouver
trois. Non, mais je vais te dire, on va remonter, on va être gentil avec lui à l'année dernière. Là, il a pas joué depuis un certain temps. Il y a eu cet épisode-là. Il pense qu'il y a une chose, c'est de se barrer. Là, tu vas lui dire, on recrute pas, donc on va te prendre. Et puis, le 12 février, le match le plus important pour le Paris Saint-Germain, si jamais, comme tu dis, Verratti se blesse, ou Marquinhos, il est pas bon, ou on a besoin d'un milieu, on va sortir du chapeau Adrien Rabiot parce qu'il sera entraîné une quinzaine de jours avec le groupe, alors que là, il est mis de côté. On sait très bien, alors peut-être pas vous, parce que vous n'avez pas joué au niveau, mais quand tu t'entraînes, tu perds quand même, tu fais que des entraînements, tu perds le rythme, tu perds la confiance que t'as, et que quand tu joues un match du niveau de la Ligue des Champions, encore plus sur un match à élimination directe, mais t'es forcément à côté de la plaque. Donc comment il va apporter quelque chose au groupe parisien? C'est une connerie monumentale ce que j'ai entendu.
Daniel, quel est ton point de vue?
Est-ce que tu es d'accord avec Jérôme? Je n'ai pas ajouté grand-chose, je suis 100% d'accord, mais je vais ajouter, je n'y crois pas une seconde.
Ah, j'espère.
Il ne reviendra pas. Je n'y crois pas.
Mais alors, Daniel, pose la question. Pourquoi il tient ce discours-là, Thomas Tuchel?
C'est pour mettre la pression.
Mais la pression. Mais attends, mais franchement, vous foutez de moi quoi?
Je ne crois pas que ce soit
pour la pression. Et je ne crois pas que. Alors, ça dépend ce que tu appelles pression. C'est pour alerter que effectivement, qu'il se bouge le cul pour le trouver le 6. Et ils vont le faire. Et moi, je ne crois pas qu'il reviendra parce que. Je pense que cette fois, le président Al-Khelaïfi ne cédera pas. Et il dira à Tuchel, tu ne le mets pas. Je pense qu'il a fallu beaucoup de temps pour qu'il y ait certaines prises de conscience dans ce club. Il y a eu énormément d'erreurs. D'ailleurs, l'affaire Rabiot vient d'une erreur du club. Je n'y crois pas. Si demain on me dit, Rabiot a réintégré l'effectif du PSG... Moi, je vois ça comme une catastrophe et la preuve que, décidément, année après année, ils ne comprennent vraiment rien à la façon de gérer un effectif. Donc, je n'y crois pas.
On va prendre l'avis de Paul au 32-16 qui est là. Salut, Paul.
Ça va, les mecs?
Salut, Paul.
Ça va, et toi?
Salut, Paul.
Ouais, c'est toujours moi qui interviens pour appeler de Rabiot, d'ailleurs. Donc,
t'es le spécialiste de Rabiot.
Bah, c'est toujours moi avec vous.
Ah oui, exact, je me souviens. C'était il y a une bonne semaine, là.
Exactement, je regarde des programmes d'un œil et des matchs de l'autre aussi, tout ça, quoi.
Bon, t'es d'accord avec Jérôme ce soir?
Je suis tout à fait d'accord avec Jérôme. Je pense que là, ça dépasse totalement le cadre du sport, maintenant, cette affaire Rabiot. C'est une affaire d'honneur, entre guillemets, comme je disais à Max au standard. C'est maintenant, il faut se faire respecter en tant que club. Le petit, on a essayé de lui faire comprendre que de toute façon, s'il vous laisse barrer, je crois pas que le club ait jamais dit qu'il voulait absolument pas qu'il se barre, il voulait juste prolonger pour faire une plus-value sur le joueur.
Exactement.
Ce que le mec n'a jamais voulu comprendre parce que lui, il a toujours pensé avec sa maman à la grosse prime qu'il avait signée libre dans le prochain club qu'il allait faire. Donc stop aux conneries. On va pas en plus lui faire le plaisir de jouer au football. Je pense que le PSG a les moyens de lui payer son salaire comme il a fait à Ben Arfa. Et heureusement qu'il a les moyens de le faire, parce que si on n'est pas Saint-Etienne, peut-être que Saint-Etienne pourrait pas le faire, mais le PSG peut le faire. N'importe quel grand club le ferait. Donc le PSG doit rester sur la ligne qu'ils ont décidé. Voilà,
mais tu sais, au final, Paul, c'est peut-être, et j'espère, l'une des dernières fois qu'on en parle, parce que vraiment, j'y crois pas. Vraiment, je pense que assez rapidement, un joueur va arriver au milieu et Rabiot ne sera plus dans l'effectif du Paris Saint-Germain, ou en tout cas, il sera comme il l'a été sur les derniers matchs, en tribune au moment du match, ou carrément à la maison sur son canapé. Alléluia. Donc, je pense qu'on n'est plus, on n'en est plus là. Je ne crois pas à ça. Là.
Alors, puisqu'on est sur le PSG, je vous pose une autre question qu'on n'a pas abordée trop dans l'after, mais là le PSG donc était au Qatar pendant une semaine. Donc le PSG qui normalement devait jouer son match en retard contre Montpellier là cette semaine, ne le jouera pas là, ça a été reporté à plus tard. Paul, est-ce que tu trouves ça normal? Certains dirigeants de clubs français commencent à gueuler en disant mais attendez, pourquoi nous on nous dit là on joue et eux ils vont au Qatar tranquille, personne dit rien.
Avec ce que le PSG se prend sur la tronche, entre guillemets, avec les histoires de fair play financier, etc., si en plus la Ligue allait se mettre contre eux et allait leur sucrer ce petit stage au Qatar qui était bien lucratif et qui expliquait une certaine partie des revenus du PSG dans cette année, je pense que la Ligue n'avait pas intérêt non plus à se mettre le PSG à dos dans cette situation. Après que les autres clubs gueulent, je veux dire, dans le match, si le match avec l'équipe contre qui on joue, l'équipe adverse est d'accord, je vois pas pourquoi les autres.
Ouais, c'est ça, exactement. Qu'il y a un mécontent, c'est Montpellier.
Exactement.
On peut le comprendre. On peut le comprendre que Montpellier, ça les emmerde, ça les embête.
C'est une spirale en ce moment, les Montpellier.
Hein. Moi, je comprends que certains en aient parlé. Maintenant que certains trouvent ça scandaleux au nom d'un manque d'équité. Je veux bien qu'on crie et qu'on fasse des bonds de cabri sur une chaise en disant ça, mais c'est quand même être très loin des réalités et ne rien comprendre. Alors, on peut refuser que le foot soit un business, toujours est-il que, soyons réalistes, ça l'est. Aujourd'hui, la Ligue 1 est pas en super forme et elle tient beaucoup à ce que fait le PSG, donc je ne crois pas, c'est de la négo, je ne crois pas que la Ligue avait intérêt, Paul vient de dire en grande partie pourquoi, il n'avait pas intérêt à dire au PSG ou à se mettre en travers de leur volonté, à dire non, vous devez faire ci, vous faire ça, je crois que personne n'avait intérêt à l'application on va dire d'une sorte d'égalitarisme stupide et à dire non, les autres ils jouent, tu joues aussi. Non, je pense que personne n'avait intérêt à ça, vraiment.
Merci Paul, bonne soirée, à très bientôt pour reparler de Rabiot.
Je vous envoie ma vidéo pour l'Académie. Hein.
Ah bah écoute, j'espère pour toi que
qu'elle
retiendra notre attention. Et tiens, on écoutera un petit extrait d'ailleurs d'une des vidéos en fin d'after pour vous donner quelques idées, vous qui voulez encore envoyer vos vidéos d'ici dimanche. Juste une info du soir là, le transfert de Salah à Cardiff est presque imminent. Donc ça s'accélère ce soir.
Ça c'est pareil, hein. On parle.
Tu voulais dire un mot de Nantes, Daniel?
Il y a des choses qui doivent se régler parce que quand tu commences à mettre en route la machine et que tu fais les choses à moitié et que ça commence à parler. Et que tu arrives à des désaccords au sein du club, les derniers matchs de Nantes, ils sont pourris. Hein.
Ouais,
parce que ça là, je veux partir, je veux pas partir, je sais pas. On me pousse dehors, on me pousse pas dehors. Le président dit on va pas laisser passer l'oseille. Vaïd, évidemment, qui gère le sportif, dit merde, vous me l'enlevez l'attaquant qui est en pleine bourre cette année. Résultat, Vaïd ne travaille plus normalement et comme il faut. Salah n'a plus vraiment la tête à l'endroit et Nantes a fait quoi sur les derniers matchs? Pas bien, ils ont perdu.
Mais ça, on en revient toujours au même. Daniel, c'est outre ce qui se passe à Nantes ou dans les autres clubs, c'est le mercato d'hiver qui est un mercato catastrophique pour la gestion de ces clubs-là. Je te parle pas des grands clubs parce que les grands clubs, eux, ils ont aucun. Normalement, ils ne perdent pas leurs meilleurs éléments.
Jérôme, oui. Moi, je me demande si pour Nantes c'est cata. Kita, il a besoin de l'oseille.
Kita,
il a besoin de l'oseille.
On parle de l'oseille. Moi, je te fais une différence et on en parle souvent. D'ailleurs, on va d'abord parler du sportif avant de parler de l'oseille.
Évidemment que c'est un gros problème.
Mais comme tu dis, parce que là, Vaïd, il voit un joueur et c'est logique parce que moi, je l'ai vécu. D'ailleurs, quand j'étais à Troyes, je suis parti au mercato d'hiver à Monaco. J'étais à 3, j'avais joué la Coupe d'Europe, j'étais sur une bonne série, le club est aussi. Alain Perrin, il voulait pas, il voulait pas que ça se fasse. Et ben moi je lui ai dit, écoute, tu comment ça, tu veux pas que ça se fasse. Mais moi ils mettent cher. Je vais pas en stage et je ne jouerai pas. J'ai fait ma tête de con comme ça là peut le faire parce que certainement qu'il s'est mis d'accord déjà avec Cardiff et que c'est ouais. problématique pour l'entraîneur et sportivement pour l'équipe et ça se ressent en effet
parce que là ils enchaînent. Laisser passer l'opportunité.
Et non mais parfois, ça tu peux le comprendre
aussi. Là le club veut pas laisser passer l'opportunité donc bon bah voilà.
Dans quelques instants les dernières nouvelles et les dernières aventures de Marcelo Bielsa à Leeds. Messieurs dames bougez pas. Julien Laurence va vous raconter tout ça puis j'ai encore plein d'infos mercato à vous donner et puis l'équipe pipe et l'équipe type du Racing Club de Lens. J'en ai reçu plein là. Puis il y en a des belles. Je peux vous dire qu'il y a des gars à Lens qui ont bossé ce soir. On me dit, je n'écouterai plus jamais l'after, me dit Alexis, si Giroud n'est pas l'entraîneur de l'équipe Pipe. Bon, on verra.
Giroud, Jean-Pierre Papin.
Lui, veut Giroud, en tout cas. Alors, Giroud, je pense que là, quand même.
Bah, on peut faire le tandem, ils ont été tous les deux.
Ah, peut-être bien. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC Football Show. L'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, 23h32. Il est 23h32. On a encore donc une petite demi-heure ensemble avec Jérôme Bretagne, avec Daniel Riolo. L'after est là, bien sûr. Et on retrouve Julien Laurence comme promis, car il faut qu'on vous raconte les dernières aventures de Marcelo Bielsa à Leeds. Julien, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Salut Julien.
Alors évidemment on a suivi cette histoire d'espionnage, mais raconte-nous cette conférence de presse que Bielsa a tenue hier, totalement hallucinante. Juste avant que tu racontes, on va écouter un petit morceau, puisque donc pour schématiser, il dit oui j'ai espionné, bon désolé, hein, si j'ai les sanctions je les prends. Écoutez Bielsa.
Je peux vous assurer que nous avons espionné tous nos adversaires, tous les entraînements réalisés par nos adversaires avant nos matchs. Je voudrais faciliter l'enquête.
Voilà, donc il est prêt à tout dire, à tout expliquer, en toute transparence. Et donc, derrière, il a donné un cours magistral au présent, hier à Leeds, lors d'une conférence de presse, Julien.
Ouais, c'était ça. Donc quand on a eu la nouvelle qu'il avait organisé une conférence de presse, tout le monde s'est dit oulala, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va démissionner. On se rappelle quand même que la dernière conférence de presse qu'il a donnée dans ce genre de climat, c'était à Marseille et il était parti. Donc c'est vrai qu'il y a eu une période où les gens se sont dit qu'est-ce qui va se passer,
est-ce qu'il
va.
Donc tu te dis oulala, qu'est-ce qui. Ouais, c'est.
Voilà. Et puis effectivement, il avait l'air après le match de Derby County, donc ils avaient gagné 2-0. Il avait eu l'air touché en tout cas par toutes ces critiques, par ce que les Anglais appellent le Spygate. Donc l'affaire d'espionnage, et tu le sentais vraiment pas très bien. Donc les gens se sont dit, ben voilà, peut-être qu'il va démissionner. Au final, il nous a sorti une leçon de coaching, d'analyse tactique, de données d'adversaires, où il a tout expliqué pendant un peu plus d'une heure, en disant voilà tout le travail qu'on fait, on regarde tous les matchs de chaque adversaire. Et après, il a aussi dit, mais aussi, on va espionner le dernier entraînement avant les matchs. On l'a fait pour tous les adversaires qu'on a joué cette saison. J'envoie toujours quelqu'un qui se déguise et qui va regarder ce qui se passe.
On parle d'espionnage, mais on pourrait aussi parler de professionnalisme, en fait, au fond.
Et c'est comme ça que lui l'a justifié.
C'est ce qu'il
a
dit.
Voilà, exactement. C'est comme ça qu'il a justifié en disant si je le fais pas, moi je me sens mal, ça me rend anxieux parce que j'aurais l'impression de pas avoir tout fait pour tout connaître de mon adversaire. Alors, ce qui est très important à savoir aussi et à dire aux auditeurs, c'est que l'observateur de Bielsa de Leeds United n'a rien fait d'illégal. Il était sur un chemin public. À l'extérieur du centre d'entraînement de Derby County, donc il n'a pas enfreint des lois, il s'est pas.
C'est pas caché quoi.
Il s'est pas caché, mais si tu veux, il n'est pas rentré dans une propriété privée, il n'a pas escaladé
pas comme
une barrière
Gilbert,
pour rentrer.
Il était dans les arbres avec la fontaine.
Ah non. Bah Julien était avec, je te signale.
Bah, on était tous les deux.
Ah bah, je sais. Je t'avais vu toi.
Mais figure-toi qu'il n'y avait rien d'illégal puisque nous étions sur une voie publique.
Oui, ben bah, je sais, mais c'était bien caché quand même.
Et les policiers de Clairefontaine venaient nous voir, ils ont rentré.
Ah donc c'est la même forme, c'est exactement pareil, donc
l'adjoint de Bielsa, c'est ça. On faisait notre boulot, monsieur.
Exactement ça. Sauf que c'était pas un adversaire direct de l'équipe de France qui faisait ça.
Oui, certes.
Non, non.
Nous, c'était pour informer le public. On est au service du public, nous, monsieur Rotten. Exactement. Julien Laurence et moi.
Bande d'espions.
Mais c'est vrai, cette conférence de presse, alors il y a deux choses. Il y a des entraîneurs qui disent mais nous aussi on fait des analyses tactiques sur les adversaires, nous aussi on a plein de data, plein de données, plein de tout ce que vous voulez. C'est pas que Bielsa qui le fait. Alors c'est vrai que ce que Bielsa nous a montré hier, c'était quand même d'un niveau assez incroyable, sincèrement. Il dit que il regarde donc tous les matchs de ses adversaires, même de la saison passée. Il dit que ça lui prend environ 4 heures pour regarder un match, donc à un moment il manque des heures, à un moment, parce qu'il peut pas faire autant, il peut pas regarder autant
oui,
de matchs.
Moi, je me suis dit, attends, il nous dit qu'il a vu 40 matchs de Derby County pendant 4 heures. Excuse-moi, mais
ouais, tu peux pas.
Il y a pas 6 heures dans la journée. C'est pas possible.
C'est mécaniquement pas possible. Juste, ouais. On a vu les images d'un tableau qui montrait dans sa conférence de presse, mais on a du mal à voir. Il y avait quoi concrètement sur ce tableau?
Donc sur chaque joueur de Derby County, c'est ce qu'il a montré en fait, et les positions, les mouvements, sincèrement, le nombre de données qu'il avait sur chaque joueur de Derby County, et c'était aussi son autre justification. Il disait j'ai pas besoin d'aller les espionner, je connais tout par cœur, je sais tout ce qu'ils vont faire. Et il a raconté cette histoire avec Pep Guardiola quand il était à Bilbao et qu'il a affronté le Barça de Pep, où Pep était venu le voir à la fin du match en lui disant tu en sais plus sur mon équipe et sur mes joueurs que moi. Même. Et Bielsa après a dit cette blague en disant ben il a eu tort parce qu'ils nous ont mis 3 buts, ils ont gagné 3-0, donc je ne veux pas tout savoir. Voilà, exactement. Donc il y avait vraiment quelque chose d'assez exceptionnel dans sa conférence de presse. Ça a pas forcément changé l'opinion des gens ici, parce que beaucoup d'entraîneurs, notamment de Championship, disent qu'il a été irrespectueux, qu'il a manqué de fair play, ce qui est très anglais, hein. Et c'était contre le Derby County de Frank Lampard, qui est l'enfant chéri en Angleterre. Si ça avait été un entraîneur français que personne ne connaissait,
c'est un entraîneur de Brentford, je pense que
il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Là c'était le fait que c'était Lampard. Bielsa fascine.
Et oui, le fait qu'il parle librement de son boulot et qu'il le montre, parce que ça c'est assez peu commun en fait aussi, parce que les autres, ils viennent en conférence de presse, ils sortent des banalités, ils s'en vont, tu vois, et finalement ils dévoilent rien. Là, Bielsa, il est en toute transparence sur tout. Ça, et ça devrait être pris positivement quand même, non?
Oui, alors ça l'est, hein.
Les gens sont fascinés en Angleterre. Parce tout que globalement, j'ai vu les réactions des autres coachs et tout, il est plus que respecté par tout le monde, mais même par les mecs de la première ligue.
En plus, il est leader, le mec. Donc, il a le résultat.
Non, mais il est leader. En plus, il joue un super football, il a des jeunes joueurs.
Franchement, je suis pas étonné de ce qu'il a fait. C'est un professeur de football.
Oui, bien sûr.
Après, un professeur, ça veut pas dire un immense entraîneur de football.
Mais il est en train de faire un truc assez incroyable avec Leeds. Et
oui, bah attends, Daniel. Oui, mais il faut que ça dure. C'est pas la première fois qu'on verrait ces équipes s'effondrer aussi. Donc ça arrivait plein de fois.
Mais ce sera pas la première fois où, pour avoir vu récemment un reportage sur ce qui se passe à Leeds, où les supporters, quoi qu'il arrive, dorénavant, seront marqués à vie par lui. Et ils le disent clairement. Et Leeds, c'est une sacrée ville de football.
Mais bien sûr.
Avec des fans depuis des années, club historique en Angleterre.
Bien sûr.
Ils en ont vu d'autres. Et les mecs disaient, mais quoi qu'il arrive maintenant, même si jamais on ne monte pas alors qu'on est leader, ce mec-là nous aura marqué à vie. Et c'est la même chose partout, sauf l'épisode de Leeds.
T'es d'accord avec moi, mais c'est la grande force de lui en prenant des équipes qui vivent dans le passé, ce qui était le cas de Leeds, ce qui était le cas de Marseille quand il est arrivé à Marseille, ce qui était le cas d'autres. Non, mais c'est vrai. Attention, c'est pas encore une critique sur la personne, le fait qu'il soit passionné de football. Moi, franchement, ça me régale. Ça me régale qu'il soit aussi pointilleux sur la préparation des adversaires. Ça veut dire la passion qu'il a du football. Mais moi, j'en veux des mecs comme ça.
On peut aussi voir ça de façon inquiétante.
Non,
le mec, il est monomaniaque.
Il est obsédé. Exactement. De toute façon, là, c'est à l'extrême, poussé à pire qu'à l'extrême.
Tu te rappelles de Rain Man avec Dustin Hoffman?
Il fascine tout le monde en France.
Mais en France aussi, Daniel, attention, non, là, je suis pas d'accord avec toi. En France aussi, moi, je faisais partie de ceux qui le critiquaient par la suite, parce que quand t'es un entraîneur de foot, t'es pas un professeur de football. Lui, c'est pour moi un professeur de football. Non, mais c'est ça.
Je pense qu'il a été traité comme ça.
Oui,
c'est le seul pays où il aurait été traité.
Non, mais t'es d'accord aussi que
moi, je n'ai jamais compris pourquoi.
Il a donné un petit peu le bâton pour se faire battre. Marseille, encore. à Lille.
Non, mais faut
à Lille,
différencier
quand même,
deux choses.
Non, le club.
Non, mais d'accord. Non, mais
faut
ok. Mais il a. T'es d'accord avec moi qu'il a quand même mis des choses en place,
Jérôme,
qui n'ont pas du tout fonctionné. Il est pas
mais
le seul.
Fois, c'est la seule fois où ça n'a pas marché.
Non, oui, d'accord.
Ça veut dire que c'est bizarre quand même.
Non, mais bien sûr.
On sait
c'est pas
le partout où il passe.
On sait très bien ce qui s'est passé en France. On sait très bien ce qui s'est passé en France. C'est-à-dire qu'en France, il a suscité une espèce de jalousie quasi automatique de la part de ses confrères français.
On n'a pas de mec passionné.
On
n'a
pas
de mec qui travaille comme ça. Parce que culturellement, on n'est pas prêt à ça.
Mais après,
moi j'entends encore
critiquer des erreurs qu'il a fait ou des gestions de match.
Oui, mais
quand il se retrouve à Lille à avoir pas de gardien et à mettre un joueur de champ parce qu'il fait n'importe quoi dans le coaching, il fait aussi des conneries, le gars.
Gilbert, mais
donc ça, c'est normal qu'on le critique aussi.
Le problème, c'est qu'il y a un tas de gens qui ne s'en sont même pas, parce que notre culture foot est tellement zéro que quand il s'est barré de l'OM comme il s'est barré. Mais je me souviens très bien le jour où c'est arrivé. J'étais en vacances, on m'a appelé pour me demander si je pouvais intervenir dans l'after ce soir-là. Je dis mais pour ceux qui savent qui il est et comment ça se passe, il était évident que ça pouvait arriver, s'il se passait ça. Et ça est arrivé, et j'entends encore des gens dire il s'est barré comme un traître. Mais vous n'avez rien compris, vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous ne connaissez.
Non, mais il y a quand même une fragilité.
Non, mais bien sûr, voilà.
Matin, il peut se lever du mauvais pied et dire je me casse.
C'est ça le problème.
Évidemment. Parce qu'on l'a pas changé, là. Mais il voulait une panière bleue pour le linge, j'allais en rouge jusqu'à ce moment-là.
Exactement.
Est-ce qu'on l'a pas toujours dit ça?
Là-dessus, faut
tous les gens le savent. Sauf que les gens continuent à dire il s'est barré comme si. Mais non, si tu sais, si t'es un minimum renseigné sur son parcours, sur ce qui s'est passé, c'est comme quand les mecs disent il a rien gagné. Qui d'abord, factuellement, est faux. Mais admettons que ce soit vrai. Son discours, lui-même, dit que c'est pas ce qui lui importe le plus.
Donc, oui, non, mais c'est,
si tu le prends, mais si tu écoutes ce qu'il dit, si tu te passionnes pour
c'est
le
pour
personnage,
ça que je te dis...
pour sa passion, pour ce qu'il
non,
est,
non, mais, okay.
tu dois pas regarder
Daniel,
ça.
Daniel, c'est pour ça que tu peux pas le traiter comme un entraîneur classique.
Je suis content que tu dises ça.
Non, mais oui.
Voilà. Pour moi, c'est ça, là. Tu viens de dire un truc important.
Julien, un truc à rajouter pour conclure?
Oui, il est obligé de
juste rapidement.
Vas-y, Julien.
Ce qui est encore plus fascinant en Angleterre, mais ce qu'il a été aussi à l'OM, c'est qu'il parle pas la langue. Et qu'il arrive à faire jouer ses équipes comme ça, à faire progresser ses joueurs de la manière dont il le fait, sans parler la langue, avec un traducteur qui le suit partout, qui doit donc tout traduire, même à l'entraînement, les exercices, les consignes, tout ce que tu veux, et qu'il arrive quand même à avoir ce genre de résultat, moi je trouve ça incroyable.
Et puis ce qu'en disent les joueurs, 80% des joueurs qui ont été avec lui, ce qu'ils disent, de comment il les a...
Salut.
Mais voilà, comme tu dis, c'est un professeur.
Salut.
C'est extraordinaire.
Exactement. Non, mais
quelques instants, le reste de l'actu. Et l'équipe type et l'équipe pipe du Racing Club de Lens. Quand on a dit ça, on pourra en reparler. Il est leader de la Ligue 2 anglaise. Il pourrait remonter en Première Ligue. S'il monte en Première Ligue l'année prochaine, là, ça va être quelque chose quand même. Allez, à
tout. Ah oui, ça, oui, ça peut. Oui.
RMC Football Show, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Daniel Riolo là, tout comme Jérôme Rotten. Messieurs, dames, notre grande série des équipes type, équipe pipe continue. Je vous demande d'accueillir comme il se doit le digne ambassadeur de la région Nord-Pas-de-Calais, le ch'ti le plus célèbre des RMC Sport. J'ai nommé Jean Baumel.
Salut les amis.
Salut Jibo.
Jean Baumel,
salut,
il peut
Jibo.
Te faire l'équipe type de l'histoire de Lille, de Valenciennes, de Boulogne, de Lens.
De Wascal.
De Wascal.
Voilà,
de
c'est Dunkirk, la Ligue 2, là.
De Boulogne-sur-Mer.
Déjà cité.
De Béthune.
De Calais. Du Touquet.
De Béthune. De Béthune aussi, non?
Paris-Plage.
Bon. De Béthune, oui, avec président Jacques Mélic.
Ouais.
Ah bah évidemment.
C'est une autre époque, mais il y avait Valenciennes dans le coup.
Ce ricanement de Jibo. Alors, t'as préparé ton équipe type?
Ah oui.
Combien il avait mis pour faire Paris-Béthune en voiture?
Ah ouais, c'était
46 minutes.
Je non, pense que ça, ouais. Il pouvait même minutes. Pas s'arrêter au péage. Hein.
Non.
C'était ouais, il avait fait ça à 46 minutes. Ouais.
Avant que tu donnes la tienne, pour une fois, on va changer. Je vais donner.
Quand il devait être là-bas, et pas. Ouais, d'accord.
Je vais donner l'équipe qui nous est arrivée de la part de Thibaut, qui nous a fait une infographie. Non, mais je vous la donne. On l'a pas.
On l'a pas.
C'est un auditeur de l'After. Après, Thibaut, retiens bien ce qu'il dit, et puis tu verras si la tienne est proche. Il a mis Varmus dans les buts. Il a mis en défense centrale Jean-Guy Wallem et Didier Sénac. Il a mis sur les côtés Lachor et Sicora. Donc là, que des mecs à leur poste. Hein, puis moi, je pense que cette défense-là, elle a de la gueule. Il a mis au milieu Pierre Lègle et Daniel Leclerc devant la défense. Sur les côtés, Georges Lèche et Didier Six. Et devant, Udjani et Wisniewski. Voilà l'équipe type de Thibaut qui est très fier de son équipe. Hein.
Bah, bon. Elle est pas mal, franchement.
Mais pas Tony Vierel.
Alors, Tony Vierel.
Défense, j'ai quasiment la même.
Ouais. Quelle est ta différence?
J'ai mis José Pierre Fanfan à la place de Sénac, mais ça se discute. Mm-hmm. Je pensais aussi à Ismaël.
Sénac, il est quand même vraiment très lent.
Mais ouais, plus Bordeaux, je trouve moi.
Ouais,
c'est comme l'époque de Claude Béz, vois.
Bon, en tout cas, Wallem, Sikora, donc, il y a même pas de débat, autant c'est trois.
Sikora, il y a pas, là, il y a pas photo. Voilà, Varmuz. Alors, Lachor ou Cyril Roll, parce que bon, Lachor a marqué le club, parce que c'est lui aussi qui donne le titre, hein, avec son but égalisateur.
Ah bah ouais,
t'es
obligé de le mettre, Lachor, pour ça.
Et mais Cyril Roll aussi a fait de longues saisons à Lens. Au milieu de terrain, j'ai mis donc DU, Foé et Sedou Keita.
Ah, t'as fait un milieu différent.
DU.
Tu l'as mis au milieu.
Ah, il joue au milieu à Lens.
Mmh, ouais.
Ouais.
Marc Villain-Fouet, qui s'est révélé à Lens. Ouais. C'est Lou Keita. Il y avait aussi Stéphane Ziani, mais il a fait qu'une saison. Mais quelle saison en 98?
Une saison, ça suffit pas.
Non, voilà. Et Vladimir Smicer, que j'ai mis entre parenthèses aussi.
Et devant, t'as mis qui?
Alors, Vercruz, Vérel et Roger Bolli.
Ah oui, mal. Roger Bolli,
Zadère, c'est très Lens aussi. Vercruz, c'est...
Ah, Vercruz, bah oui. Mmh.
Mais
Vérel, logique.
Je suis moins d'accord avec. C'est qui au milieu, t'as mis Marc Villain-Fouet, DU et.
C'est Lou Keita. Ah, qui a été énorme. Oh. Quand il est parti, sincèrement, les deux dernières saisons qu'il fait à Lens.
Je crois qu'un Pierre Lègle. Quand même.
Pierre Lègle aussi, ouais. C'est tentant.
Il y a des noms. Hein.
Didier Six, mais il a fait qu'une saison.
Et même derrière l'arrière-gauche, à Jovi Boko.
Il est de la première aventure qui fait qu'on parle de Lens pour la première fois, vraiment. Le match contre la Lazio 77.
Ah hein. Oui, bah Daniel Leclerc, on peut aussi.
Mais tu l'as pas mis, moi.
C'est ce que dit Thibaut.
Daniel Leclerc, c'est dans les anciens. Si après Marc,
c'est le triplé dans le match de l'histoire du RC Lens contre la Lazio.
Obligé, ce match de 77, on l'a tous vu quand on était petit à la télé. C'est un truc de fou, quoi.
Moi, j'ai un pote qui a travaillé au RC Lens et qui m'envoie là en ce moment. Il met Leclerc et Sénac.
Ouais, pour moi aussi. Ouais. Pour moi, Leclerc, Sénac, Six.
Il y a un autre nom qui revient souvent dans les équipes que nous ont envoyé nos auditeurs.
Sauf dans les matchs contre l'OM où Papin devait marquer.
C'est Sibierski qui revient aussi.
C'est Lille, lui, Sibierski.
Il y avait du vent.
Formé à Lille, il a joué à Lille.
Sibierski, c'est Lille, oui, bah, exact.
Après, c'est vrai qu'il a joué à Lens.
Sibierski, je ne veux pas. Non.
Tiens, on a Xavier au 32-16 qui est là. Salut, Xavier.
Et entraîneur, bon, Daniel Leclerc, et puis j'ai mis aussi Gérard Rouillet, parce que c'est là que Gérard Rouillet s'envole comme entraîneur.
Ouais. Est-ce que, Xavier, est-ce que dans ton équipe type, il y a des joueurs qui n'ont pas été cités?
Bah, moi, j'avais rajouté Mickaël Debèves.
Ah, oui.
Ah, Mickaël Debèves.
Ah, le buteur Wembley.
Ouais. Voilà,
il aurait pu être dans l'équipe type, en fait. Il peut être dans les deux.
Ah bon?
Mais, qui ça? Ouais. Mickaël Debèves.
Ah, non, dans les deux, non.
L'équipe pipe,
c'est dur.
L'équipe pipe, t'es dur.
Ah, quand même.
Ah, mais bon, c'est genre. Mais parce que moi, je l'ai mis à la place de Dehu, parce que bon, Dehu, il jouait sur deux postes. Et sinon, non, j'avais tous les joueurs, la défense. L'accord, l'achat, j'ai hésité avec Adjovi Boko.
Ouais, Adjovi Boko. Ouais,
ah, très bien, joueur historique, Adjovi Boko.
Si tu m'écoutais, voilà. Toi, ça fait 5 minutes que je viens de le dire.
Ah bon?
Mais vu que tu m'écoutes jamais,
j'étais là.
Vas-y, Xavier, continue.
Et il y avait... Bah après, j'avais fait une équipe de remplaçants. Il y avait Xouereb aussi devant.
Ouais.
Mais bon, Roger Bolli et Udjani, ils ont fini meilleurs buteurs quand ils ont joué. Donc voilà, et Tony Vérel.
Ah, Tony Vérel, t'es obligé de mettre Tony Vérel quand même.
Et aussi, bah, il y a derrière aussi, on peut mettre Koulibaly qui a fait énormément de temps dans les années 2000.
Ouais, il était pas mal.
Voilà, mais dans la mauvaise période. Et gardien remplaçant, je mettrais Gaëtan Huard.
Bon, et alors là, dans le style des auditeurs, j'ai aussi du Carrière qui apparaît, du Ziani.
Bon,
Ziani, une saison.
Mais... Ouais,
Carrière,
voilà.
Carrière, dans le 11 type des...
C'est Nantes et Lyon.
Franchement,
Nantes.
Il y a du Cyril Roll aussi qui apparaît. Alors, est-ce que t'as une équipe...
C'est quoi ce 11 type des auditeurs?
Est-ce que t'as une équipe pipe, Xavier?
Moi, j'ai une équipe pipe, alors.
Ah là, je t'écoute.
Alors, gardien, c'est Itange. Arrière droit, c'est Demont. Arrière gauche, j'ai mis Cyril Roll parce qu'en fait, finalement, il a pas été super bon à Lens. Il a pris beaucoup de cartons rouges.
Ah, j'ai mieux, moi.
Il en a pris partout.
T'as qui, Djibo? Ouais.
J'ai Vignal. Vignal.
Ah, ouais,
Vignal. Défense centrale.
Défense centrale, Pierre Fanfan et Cyril Magnier.
Oh, Pierre Fanfan, t'es dur.
Ah ouais, t'es dur. Et Magnien aussi, t'es dur.
Il était super bon.
T'as mis qui, Djibo, toi?
Magnien.
Moi, j'ai mis Cubillier et Franck Dumas.
Ah bah oui, bah bien plus.
Ah
bien
oui,
sûr.
Oui.
Bien sûr.
Djibo très fort pour repérer les Brel.
J'ai mis Kasraoui dans les buts. Bon, pas trop connu, hein, mais...
Au milieu, vas-y Xavier.
Au milieu de terrain, alors j'ai mis Bouba Diop qui fait un excellent mondial 2002 et au lieu de le vendre super cher, on le garde et un bidon.
Ouais.
Coridon à ses côtés.
Ouais, mais Charlie à Lens, c'était pas mal. Hein.
Il fait rien à Lens. Non, franchement.
Ensuite.
Et ensuite, sur les côtés, en milieu offensif, j'ai mis Kalou qui a été un désastre.
Ah, Kalou, ouais, exact.
Bonne aventure.
Et j'ai mis Jérôme Leroy parce que Jérôme Leroy fait une super saison. Et il s'en va pour le projet sportif en Israël au milieu de saison.
Avec Louis.
Et devant j'ai un duo magique, c'est Wagner Eloy et Dagui Bakary.
Oh non, pas Wagner.
Oh non,
je n'accepterai pas Wagner.
Que Wagner soit une pompe à vélo à Monaco. Là, j'en ai fait moins numéro 1.
Formé à Lens et fil à Monaco. Donc ça veut dire qu'il a été bon à Lens.
Mais il est champion.
Il est champion.
Non, mais toi, tu te fous de moi, quoi.
Il est champion.
Ouais, d'accord. Donc il a été important dans le titre de champion à Monaco, tu vas me dire. Non, mais
il était là.
Il y a Pascal Nouma ou Didane qui a pas forcément fait.
Ah, on a Didane. Non, il était bon à Lens, Didane.
Ah,
c'était
bon.
Il y a eu l'autre aussi, Dossard, la Fadiga.
Didane, tu peux pas le mettre parce que le pauvre, je crois, avait eu des vrais problèmes de santé.
Il avait perdu son fils.
Ou des problèmes de santé, ou des problèmes de famille.
Oui, si.
Didane, c'est dur parce que le pauvre avait vraiment une galère très, très grave.
Dagui Bakary, en tout cas.
Sur le banc de l'équipe PIP, tu mets qui?
Sur les bancs, j'avais mis Julien Sablé au milieu de terrain, qu'on fait venir de Saint-Etienne et.
Non, mais l'entraîneur.
Entraîneur.
Bah, c'est Giroud.
Ah bah voilà.
Tiens, est-ce que vous savez que si Giroud
le tandem.
Je vais vous expliquer quelque chose. Donc saison 2007-2008, la saison qui rend fou tout le monde parce que à Lens, parce que c'est il le paye encore aujourd'hui puisqu'il descend, hein. Il vise les 5 premières places. Giroud accepte avant un autre entraîneur, un certain Didier Deschamps. Donc si Giroud ne répond pas assez rapidement, c'est Didier Deschamps normalement qui entraîne le Racing Club de Lens. Et ça c'est pas une blague, hein.
Ah mince, voilà. Alors, ça tu vois,
c'est Gervais, mais j'ai fait une interview avec Gervais.
C'était avant qu'il descende.
Si Giroud n'était, en fait, ça joue entre Giroud et Didier Deschamps.
En fait, Deschamps à l'époque.
Et Giroud était le plus rapide à donner sa réponse.
Deschamps se serait lancé à ce poste-là.
J'aurais pas pu.
Juste après Monaco.
2007-2008, il avait déjà fait Monaco.
Ouais, c'est après Monaco.
Après Monaco.
Oui, j'aurais même carrément après.
J'aurais pas pu le faire descendre, quoi, quand même.
C'est l'époque où il est consultant ici.
Merci Djibo, en tout cas c'était parfait. Et merci Xavier.
On a oublié Akalé aussi qui était pas mal.
C'est Akalé que je cherchais.
Et Sidi Keïta, grosse dick, un Serbe qui était venu de nulle part. Et Radek Bejbel, vous rappelez Radek Bejbel qui venait de l'Atlético.
Grosse dick.
Grosse dick.
Grosdick. Ah, tu t'en souviens bien de celui-là, mon coquin.
C'est l'époque de Roland, ça.
Ah, ça
t'es coquin. Pas confondre avec grosse crute.
Non.
Salut, ni pas gros.
Grosse dick.
Pardon. On n'y a pas commencé avec Queudru qui a aussi joué à Lens.
Oui, Queudru, c'est vrai, Queudru a joué à Lens.
Queudru, on aurait pu le mettre. Queudru avec devant grosse dick.
Mais
côté gauche.
Grosse creuse, mais avec Quaresma, parce que sans un lanceur, ça va pas ensemble. Et tu mets Queudru. Queudru, voilà.
Notre gagnant du jour, c'est Gaël. Salut Gaël.
Salut grosse dick.
Salut à tous.
Gaël, t'es le gagnant du jour, t'as tiré au sort un casque Bluetooth, Gaël. Pour toi, c'est cadeau.
Génial, merci.
C'est le cadeau de la rentrée, c'est offert. Allez, salut à tous. Demain soir, nous serons là, bien sûr, comme tous les vendredis, après la Ligue 1, avec le retour, messieurs, l'âme triomphale de Nicolas Dias. À demain dans la
Bon courage à tous.
RMC Football Show, l'After Foot.